les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans un très bel article paru dans Le Monde une quinzaine de jours après la disparition de Pierre Bourdieu, le 23 janvier 2002, Annie Ernaux disait la tristesse qui, à l'annonce de sa mort, avait envahi tous ceux pour qui la découverte de ses travaux avait constitué un tournant dans leur perception du monde et dans leur vie. « Cela me reste un mystère et une tristesse », écrivait-elle, « que l'œuvre de Bourdieu, synonyme pour moi de libération et de raison d'agir dans le monde, ait pu être perçue comme une soumission aux déterminismes sociaux. Il m'a toujours semblé au contraire que, mettant au jour les mécanismes cachés de la reproduction sociale, en objectivant les croyances et processus de domination intériorisés par les individus à leur insu, la sociologie critique de Bourdieu défatalise l'existence. » Les 26 et 27 septembre 1977, le sociologue répondait aux questions des auditeurs de France Culture dans deux volets de l'émission « Ne quittez pas l'écoute » proposée par Françoise Malétra. C'est précisément la question d'un supposé fatalisme de la sociologie qui occupa la plus grande partie de la première émission, problème si fondamental que Bourdieu insista pour y revenir dans la seconde.
Pierre Bourdieu, bonjour. Vous avez en effet accepté de poursuivre aujourd'hui le dialogue engagé hier avec les auditeurs de France Culture. Un vrai dialogue qui a quelque peu bouleversé les plans que nous avions soigneusement élaborés ensemble. Et finalement, nous en sommes très heureux car ceci nous a permis de constater un certain nombre de choses très importantes pour nous. Tout d'abord que le contact s'est immédiatement établi entre ces auditeurs et vous. Et le mérite vous en revient. Vous me permettrez tout à l'heure d'en donner quelques raisons. À cet égard, et avant d'aller plus loin, je rappelle l'attention de ceux qui n'auraient pas écouté notre programme d'hier, que vous êtes sociologue, donc à la fois un chercheur dont les travaux se traduisent par un certain nombre d'ouvrages et d'articles dans des revues spécialisées, et aussi un homme d'action qui préside depuis 1964 aux destinées du Centre de sociologie européenne installé à Paris, et qui en 1975 crée avec une équipe de jeunes collaborateurs Acte de la recherche en sciences sociales, une revue qui allait devenir, selon le mot d'un journaliste, une arme légère, mais terriblement efficace, et qui est en fait une tribune, au meilleur sens du terme, où peuvent s'exprimer les courants les plus novateurs de la recherche actuelle, et où les objets de réflexion et le matériel des enquêtes sont en prise directe sur la vie quotidienne. Alors voici en quelques mots ce qui s'est passé hier. Nous avions prévu d'aborder le thème de égalité ou inégalité des chances en matière d'éducation, un thème sur lequel vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé et beaucoup publié, mais vous aviez tenu en ouverture à redéfinir le terme même de sociologie et surtout à repréciser le rôle et les statuts du sociologue. Vous en avez parlé avec une telle passion et surtout une telle honnêteté que nous nous sommes aperçus que tout cela correspondait pour beaucoup à une interrogation réelle et qu'il était impossible de traiter le thème prévu avant de s'être expliqué sur des problèmes de fond. Vous nous avez prouvé que la recherche n'était pas triste, même si elle peut et doit parfois être austère et même difficile d'accès, qu'elle est aussi une science de la connaissance pratique, que le sociologue est un homme dans la cité, dont un des comportements essentiels est l'écoute et l'observation des mouvements, des rumeurs et des opinions des hommes, qu'il n'est ni un stratège, ni un maître à penser, ni un manipulateur de statistiques, qu'il ne pratique pas l'impérialisme intellectuel. C'est un homme qui mesure, c'est un homme qui intervient. Et ceci est important, nous pourrons d'ailleurs, si vous voulez bien, y revenir tout à l'heure, sur cette notion d'intervention. Si pour le sociologue, avez-vous ajouté, la vie est un phénomène collectif, le fait de considérer les faits sociaux dans leur totalité peut amener chacun de nous à prendre conscience de son individualité. Ça aussi, un point très important. Ainsi, le thème de l'égalité ou l'inégalité des chances dans l'enseignement est-il apparu le plus souvent hier comme presque l'illustration et l'exemple d'une démarche du sociologue. C'est dire que nombre de questions sont donc restées sans réponse. Alors aujourd'hui, en accord avec vous, Pierre Bourdieu, c'est sur le résultat de ce travail, de votre travail, sur les faits mis en évidence par le sociologue que vous êtes, que nos auditeurs pourront nous interroger, dans un premier temps donc sur l'enseignement, et si nous en avons le temps, et j'insiste bien sur ce « si nous en avons le temps », sur le second thème que vous aviez choisi, à savoir qu'est-ce que le goût, que signifie goût de classe et style de vie, goût dominant, goût petit bourgeois, l'univers des biens de luxe et les retombées éventuelles socio-économiques qu'elles peuvent supposer. Une question, les goûts sont-ils socialement déterminés ou plutôt quels sont les critères de choix qui président au goût? Enfin, autant de thèmes que nous pourrons traiter si nous en avons le temps. Je rappelle vos deux lignes directes, 520-05-50 et 525-78-06. Je veux dire aussi que beaucoup de questions sont arrivées depuis le début de l'après-midi, mais il y en est une sur laquelle vous voudriez revenir. Vous avez précisé hier que vous ne pensiez pas pouvoir y répondre très longuement, ceci parce que d'autres questions attendaient. Et puis vous avez réfléchi, et je rends encore une fois hommage à votre honnêteté, vous avez voulu en ouverture de cet entretien y répondre maintenant. Il s'agissait d'une question sur la reproduction et le changement. Et vous allez nous éclairer tout de suite.
Oui, je vais essayer brièvement. J'ai eu beaucoup de pensées de l'escalier. J'ai découvert, en repensant à ce que j'avais pu dire, tout ce que j'aurais dû dire pour être plus complet dans mes réponses. Alors, il y a un point, malgré tout, sur lequel je veux revenir un tout petit peu, parce que c'est une question très importante à laquelle j'ai vraiment assez mal répondu. Bon, en quoi y a-t-il antinomie entre reproduction et changement, et y a-t-il antinomie? Alors j'ai dit hier très grossièrement que cette antinomie était tout à fait apparente et que toutes mes analyses visaient à montrer que changement pouvait aboutir à la reproduction et qu'il n'y avait pas donc de contradiction entre la reproduction et le changement. Alors je précise un tout petit peu, si cette illusion... l'antinomie s'impose à beaucoup de lecteurs, c'est que peut-être ils pensent en termes de mécanisme. Et moi-même, hier, j'ai plusieurs fois employé le mot mécanisme. Si j'avais pu écrire, j'aurais mis des guillemets. Je pense que chaque fois que nous parlons du monde social en termes de mécanisme, nous décrivons l'univers implicitement comme un engrenage. C'est une métaphore qui s'impose. Par exemple, pour décrire le système scolaire, il est commode de dire que les enfants entrent dans une espèce de grande machine, qu'il y a une espèce de trieuse automatique, comme ça, qui, obéissant à certaines lois, en éjecte un certain nombre, en conserve d'autres, plus ou moins loin. Bon, voilà une image. On pourrait construire un modèle mécanique du système scolaire. Bon, en donnant des poids différents, on mettrait des billes plus ou moins grosses, etc. Bon, de telle manière que... Voilà. Alors, cette image n'est pas fausse, mais c'est comme tous les modèles physiques du monde social. Elle dissimule une chose fondamentale, c'est que nous n'avons pas affaire à des billes dans une machine, qui rouleraient dans une machine. Nous avons affaire à des individus qui ont des stratégies. Et ça, je crois que c'est un mot tout à fait important, même si ces stratégies sont des stratégies de conservation. Et je pense que, par exemple, pour comprendre les pratiques, et c'est un type d'analyse qui s'est développé peut-être après les livres que la plupart des auditeurs ont lus, si les agents ont des pratiques cohérentes, qui ont un sens, dont la sociologie peut rendre raison, comme on dit, bon, c'est que ces pratiques sont orientées vers, par exemple, des fins plus ou moins conscientes, dont la principale est souvent la conservation de la position établie. Bon, par exemple, tout le rapport que les familles de la bourgeoisie entretiennent avec le système scolaire est dominé par le souci de ne pas régresser, que leurs enfants fassent au moins aussi bien. Et d'une certaine façon, on peut décrire les stratégies scolaires comme des stratégies de placement. L'analogie avec l'économie est tout à fait s'impose. Enfin, les parents, lorsqu'ils ont à placer leurs enfants dans un lycée, dans un CES, dans un comme aujourd'hui c'est de mode, dans la bourgeoisie, dans une école internationale, etc. Bon, ils savent très bien que selon le lieu où ils vont placer leur capital culturel, ils obtiendront un profit plus ou moins grand. Bon, et les mauvaises stratégies de placement conduisent à des mauvais profits. Bon, voilà un exemple. Alors, ces stratégies, évidemment, ne sont pas... Le mot stratégie est un peu dangereux. Enfin, bon, il faudrait s'en expliquer. Enfin, les stratégies ne sont pas nécessairement conscientes, rationnelles. Enfin, d'ailleurs, dans la plupart des univers sociaux, les meilleures stratégies sont les plus inconscientes. Et ça, c'est un des privilèges des privilégiés d'avoir inconsciemment les stratégies qu'il faut. Bon, ça, on peut s'en expliquer. Cela dit, donc il faut parler en termes de stratégie, c'est-à-dire en termes d'efforts, de choix, de travail, de chance, ces choix étant opérés par des agents qui sont à la fois déterminés et capables de contrôler leur détermination, donc qui sont constamment en train de transformer déterminisme en détermination, on peut pour jouer sur les mots. Voilà une chose importante. Alors maintenant, comment des stratégies individuelles, concurrentes, antagonistes, peuvent-elles aboutir à quelque chose qui se décrit assez bien en termes de mécanismes? Bon, par exemple, si on avait une question qui est souvent posée, est-ce qu'il y a eu démocratisation de l'enseignement supérieur depuis une dizaine d'années? Elle était posée hier. Bon, en fait, au niveau de la reproduction, nous répondions, il y a eu, c'est un mot un peu barbare, bon, il y a eu translation, c'est-à-dire qu'en gros, les gens qui avaient 5% de chance en ont eu 7, et ceux qui avaient 80% en ont eu 87. Bon, il y a eu déplacement à peu près égal de toute la structure. Bon, j'explique ça assez mal. Bon, alors maintenant, comment passer d'une description en termes de stratégie à une description objective en termes de translation? En fait, on peut employer une image très simple, l'image d'une course de handicap, bon, dans laquelle chaque coureur fait un effort pour rattraper le coureur précédent, qui fait un effort pour rattraper le précédent, qui fait un effort pour rattraper le précédent, qui fait un effort pour rattraper le précédent, et on peut aboutir à une situation dans laquelle tous ces efforts anarchiques, enfin apparemment, en tout cas individuels, etc., aboutissent à une reproduction. Bon, autrement dit, il y a un certain type de lutte, de changement, de lutte des classes, pour les appeler par leur nom, il y a un certain type de lutte qui aboutit à la reproduction. En sorte que, à la reproduction de la structure, à la reproduction du système des différences. Il faudrait dire, bon, il y a au départ un système de différences, bon, ce système, on le retrouve au terme, bien que tout le monde soit efforcé de le modifier en sa faveur. Alors, cela pose la question de savoir dans quelles conditions on passe. Dans quelles circonstances on passe d'une lutte des classes aboutissant à la reproduction, bon, à une lutte des classes aboutissant à un changement de la structure. Enfin, ça, c'est une question. Mais je pense que le fait de poser la question comme ça permet de poser, par exemple, de façon beaucoup plus forte, la question de la révolution, qu'on pose en termes souvent très naïfs. Voilà. Alors, voilà, je voulais m'expliquer sur ce point parce que je pense, bon, malheureusement, là, je ne veux pas continuer trop longtemps, mais la réponse est encore très insuffisante.
Non, c'était très important d'y revenir, en effet. Mais il y a aussi un certain nombre de questions qui semblent préoccuper particulièrement les auditeurs. C'est celui de la distribution des chances. Quand se fait la distribution des chances? Parce qu'on parle beaucoup des problèmes d'accès à l'enseignement supérieur, mais on aperçoit peut-être plus rarement certaines formes plus cachées d'inégalité devant l'école. Alors, est-ce que véritablement le problème de l'inégalité se pose au moment d'entrer dans des études, d'aborder des études, donc de l'enseignement supérieur, des études plus importantes et plus contraignantes aussi, ou est-ce que déjà en milieu scolaire, il y a cette répartition ou ces mouvements qui permettent déjà d'avoir une idée de ce que pourrait être cette inégalité?
Moi, je suis content de cette occasion de dissiper un malentendu profond en ce qui concerne ce que nous avons essayé de faire. Il va de soi que ce que l'on saisit au niveau de l'enseignement supérieur, c'est l'aboutissement. Voilà. De tout un processus, enfin, qui est commencé dès la maternelle. Enfin, un travail récent de Jean-Claude Chambordon, portant sur le rapport entre les familles et les maternelles, a montré que dans l'utilisation que les familles des différentes classes font des maternelles, il y a des différences. Enfin, c'est-à-dire que dès la maternelle, pour dire très vite quelques indications sur c'est un très très beau travail, on voit que, grosso modo, enfin, les normes, les attentes implicites et explicites des maîtresses, du système scolaire, etc., des maternelles, sont ajustées aux prédispositions des classes les plus favorisées, donc, qui sont prédisposées à comprendre ce que l'on attend de leurs enfants, etc. Alors que plus on descend dans la hiérarchie sociale, plus il y a une certaine difficulté, un malaise dans le rapport avec l'école maternelle, qui n'enseigne pas à lire, qui est une école où on joue, etc. etc. Bon, voilà un cas tout à fait typique, enfin, de mécanisme, encore une fois, entre guillemets, enfin, qui agit très tôt. Bon. Et tout au long du système scolaire, on voit agir les mêmes mécanismes, grosso modo, les mêmes lois différentielles de réception différentielle. Bon, par exemple, les enfants recevront d'autant mieux le message professoral qu'ils auront une maîtrise meilleure du langage. Bon, et ça jouera tout au long du système scolaire. Bon. Alors, les maghrébins vont jouer d'emblée, avec toutefois des moments charnières qui changent selon les époques. C'est-à-dire qu'il y a eu longtemps, c'est-à-dire jusqu'aux environs de 1960, la coupure était l'entrée en sixième. Donc, c'est là que, historiquement, enfin, c'est là que se produisait le grand schisme, enfin, la grande séparation entre ceux qui allaient au lycée et ceux qui allaient dans la vie. Avec une sous-coupure entre ceux qui allaient vers le secondaire et ceux qui allaient vers le primaire supérieur. Bon. Et ce qui se reproduisait dans la conscience des gens sous la forme d'une opposition très fondamentale, l'opposition entre les esprits primaires et les esprits vraiment cultivés, c'est-à-dire secondaires. Bon. Cette opposition a été biffée, non pas biffée, elle a été masquée, brouillée par la prolongation de la scolarité, par la création d'une série de niveaux et de redons, enfin, bon, dans lesquels se noient un certain nombre de différences. Cela dit, la coupure est en train de se restaurer au niveau de la troisième, c'est-à-dire du passage en seconde, à travers la hiérarchie des filières nobles et ignobles, enfin à travers aussi la hiérarchie anticipée, enfin bon, c'est-à-dire qu'au fond dès la seconde un certain nombre de jeux sont faits. Bon. Alors donc on peut saisir pour répondre précisément à la question l'action des mécanismes d'élimination différentielle selon la classe, etc., et continue. Cela dit, il y a des formes de discontinuité qui sont variables selon les époques. Bon. Alors, dans la conscience des agents, le déplacement, par exemple, de la sixième à la troisième de la période critique a des effets sociaux très importants. C'est-à-dire que le rapport au système scolaire des familles, en particulier des familles des classes populaires, est sûrement, je dis sûrement parce que nous avons relativement peu de travaux, nous commençons à en faire, elle est sûrement très différente aujourd'hui de ce qu'elle était à l'époque où pratiquement les classes populaires étaient exclues de l'accès à l'enseignement secondaire. Bon. Et il se constitue actuellement une nouvelle conscience du rapport au système scolaire avec une découverte relative, lente, je ne contredis pas ce que je disais hier, du fait que le système scolaire n'est pas neutre socialement. C'est-à-dire que sous la forme de l'accès à des titres qui n'apportent pas de position, sous la forme de la découverte qu'on est envoyé, que son propre enfant est envoyé vers des voies de garage, vers des sections sans débouchés ou des sections dévalorisées, etc., à travers toute cette expérience du système scolaire, commence à se constituer une conscience de classe, enfin du système scolaire, qui n'existait pas. Bon, évidemment, le rôle des organismes familiaux est là pour accélérer cette prise de conscience. Cela dit, il ne faut pas l'accroître, ce que je disais hier, à savoir qu'il y a une grande inconscience des mécanismes sociaux d'élimination scolaire reste vrai.
Oui, mais enfin, on peut aussi très bien imaginer qu'un certain nombre de phénomènes d'élimination ne doit rien à la différence sociale. Par exemple, les retards, le piétinement dans les études intervient aussi. Et à ce moment-là, les élèves dits de classe favorisée sont pratiquement au même niveau que ceux de classe défavorisée et risquent d'être eux aussi ce que l'on appelle les victimes de l'école.
Oui, alors là, évidemment, ce serait encore une fois une longue analyse à laquelle d'avance, je sais que je ne répondrai pas comme il faut. L'élimination, les mécanismes d'élimination sont les lois tendancielles d'élimination sont des lois statistiques. Bon. Pour employer le jargon professionnel, je dirais que le système scolaire contribue à la reproduction des différences sociales. Je dis bien contribue, c'est un mot qui n'est jamais lu, les seuls écrits en soulignant, etc. On ne dit pas contribue, il n'est pas le seul responsable, il est un élément. Il y a d'autres modes de transmission, la transmission de capital économique, etc. Bon, il contribue à la reproduction des différences. Et il y contribue selon ce que j'appellerais un mode de reproduction statistique. C'est-à-dire que ce que le système scolaire contribue à reproduire, ce n'est pas la totalité de la classe, tous les individus, par exemple, d'une famille, c'est à reproduire une classe statistique. C'est-à-dire que la classe soit sauvée, disons, il faut que les individus soient sacrifiés. Bon, autrement dit, il y a des échecs du système de la reproduction. Enfin, il y a des ratés de la reproduction. La reproduction n'est pas une reproduction à 100%. Il y a des enfants des classes favorisées qui restent sur le carreau. Bon, mais d'une certaine façon, sans faire du fonctionnalisme du pire, enfin bon, d'une certaine façon, il contribue encore, hein, enfin, à l'efficacité des mécanismes idéologiques.
Enfin, ça ne compromet pas totalement.
Non, d'abord, ça ne compromet pas.
Le résultat
des statistiques. Nous connaissons des foules de mécanismes de rattrapage. C'est-à-dire, il y a des filets de protection. Ceux qui tombent de très haut ne tombe jamais tout à fait en bas. Enfin, il y a des rattrapages, il y a des voies de, pas des voies de garage, il y a des, oui, enfin bref. Et en plus, le fait que une partie de la classe soit éliminée, enfin par le système scolaire, est important pour accréditer l'idée de l'équité du système scolaire.
Est-ce que c'est ce que l'on pourrait appeler les phénomènes d'autorégulation d'une société?
Oui, alors là, bon,
je n'admets pas la déperdition.
Oui, alors je dirais oui avec une réserve dans la voix, parce que bon, c'est un encore une fois une métaphore mécanique
difficile d'y échapper.
Voilà, oui. C'est vrai que on peut imaginer des modèles de ce type, enfin pour rendre compte d'une façon, comme tous les modèles, d'une façon métaphorique, enfin de ce qui se passe. En réalité, ce qu'il faut toujours penser, c'est que ce que nous saisissons cette forme, c'est une série, c'est la résultante d'une foule de petits efforts, de petites stratégies. Bon, je prends un exemple, c'est un travail que j'ai fait qui est apparemment sans rapport avec le système scolaire. C'est une étude que j'ai faite sur le mariage, bon, dans la paysannerie béarnaise, bon, où on voit que dans cette société, un des problèmes, comme dans la grande bourgeoisie ou dans l'aristocratie, un des problèmes est de reproduire le statut de la famille, et une des occasions dangereuses, enfin comme aujourd'hui pour nous le système scolaire, c'est le mariage. Bon, et j'ai essayé d'analyser les stratégies de reproduction, et ces stratégies sont extrêmement complexes. Enfin, il faut intervenir, les stratégies fécondité, les stratégies de placement, les stratégies d'éducation. Il faut que les filles soient vertueuses, il faut que les garçons soient forts, etc. Bon, autrement dit, ces choses qu'on peut décrire, il y a aussi, pour décrire les mariages, des modèles de type mécanique. En fait, sous ces modèles, il y a des actions très compliquées, des calculs, des soucis, des rides, des rides au front, des mères qui ont pensé à marier leur fils, qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi, de même qu'aujourd'hui, il y a des mères qui font les devoirs le soir, etc. Bon, autrement dit, je pense qu'à la fois, c'est vrai que les modèles mécaniques sont utiles comme résumé, pour faire comprendre, bon, et qu'ils rendent très très bien compte de la réalité, parce que c'est vrai que pour un enfant des classes populaires, le système scolaire ressemble beaucoup à un engrenage. Enfin, il peut être vécu comme ça, comme une espèce de souricière, bon. Cela dit, ce n'est pas ça.
520 0550 et 525 78 06, ce sont, je le rappelle, les deux numéros de téléphone en ligne directe de Pierre Bourdieu aujourd'hui. Une question, Pierre Bourdieu, qui nous vient de Monsieur Herms, qui a désiré rester anonyme. Que pensez-vous des familles où l'on trouve à chaque génération des médecins ou des polytechniciens, comme si ces compétences pouvaient se transmettre héréditairement?
Oui, là, on rejoint les questions précédentes. En fait, il y a des dynasties dynasties culturelles. On connaît les dynasties de musiciens, on connaît les dynasties de polytechniciens, d'anciens élèves de grandes écoles, etc. Autrement dit, malgré la déperdition, un certain nombre de gens en opposition aux analyses que j'avais proposées se sont attachés à démontrer que tous les fils de polytechniciens ne devenaient pas polytechniciens, ce que je n'avais jamais prétendu. Ça serait trop beau, enfin, pour les polytechniciens. Bon, il y a donc une déperdition parce que donc le mécanisme de reproduction est un mécanisme statistique. Bon, cela dit, les enfants des classes favorisées, culturellement, là, ça pose un problème parce qu'il n'y a pas une corrélation absolue entre le capital économique et le capital culturel. Enfin, on connaît, pour aller vite, les nouveaux riches, enfin, qui peuvent avoir beaucoup de capital économique sans avoir du capital culturel. Les familles favorisées sous le rapport du capital culturel vont transmettre consciemment ou inconsciemment des foules de savoirs, de pré-savoirs en rapport au système scolaire, etc. Bon, qui est un avantage, qui donne un avantage considérable dans le rapport au système scolaire. Bon, pour donner un exemple, on pense bien sûr à la forme voyante, enfin, de cette transmission, c'est-à-dire l'assistance dans le travail, les conseils d'orientation, le sens du bon placement. Il faut faire du latin pour avoir la bonne filière. Il faut faire des bon, etc. Bon, mais il y a des formes beaucoup plus subtiles. Par exemple, comme la transmission d'un certain langage, même plus la transmission d'un certain accent. Enfin, bon, il est évident que, à partir d'un certain niveau du système scolaire, on ne passe pas l'ENA avec l'accent de Carcassonne. Enfin, ça va de soi. Pour comprendre les statistiques de l'ENA, où pratiquement 90% des gens, enfin, le chiffre est sûrement faux, une grande partie des gens de l'ENA sont nés dans un périmètre de 500 mètres autour du Faubourg Saint-Germain. Bon, il faut faire intervenir des phénomènes de ce type, c'est-à-dire des impondérables, des choses qui s'acquièrent, des manières, etc., des choses qui s'acquièrent par le simple fait d'être inséré dans un milieu.
Alors, la seconde question de M. Herm, c'était la suivante. Comment interprétez-vous le fait suivant qu'à notre époque où les grands bouleversements sociaux interviennent à tous les niveaux et tout individu, quelle que soit sa classe sociale, est concerné, comment peut-on encore parler des valeurs dominantes du milieu ?
Je ne comprends pas tout à fait bien la question, mais...
Quel impact les valeurs dominantes du milieu familial, oui, pour nous peut avoir aujourd'hui, alors que les relations extra-familiales,
ah oui,
donc l'école et l'enseignement,
oui,
supérieur,
oui, oui,
éventuellement, sur toute la durée du parcours des études, peut intervenir.
Oui, en fait, si je comprends bien, on opposerait l'influence, pour parler entre guillemets...
On démolirait une partie de votre travail,
oui,
là, j'ai l'impression.
Oui, oui.
C'est intéressant de dire
en fait, bon, je pense que beaucoup de sociologues, d'ailleurs, contribuent à cette idée, qui est une idée du sens commun, oui, à savoir que les masses médias, la radio, la télévision, etc., les groupes des pairs, les camarades, etc., deviennent l'influence principale dans la constitution de la personnalité, le mode de transmission, etc. Bon, je pense que c'est une illusion. Enfin, toutes les enquêtes montrent, par le simple fait de la corrélation entre la réussite sociale et scolaire et l'origine sociale, que la famille reste une instance de transmission capitale. Enfin, bon, c'est par l'intermédiaire de la famille que se transmet l'essentiel, pour une raison simple, entre autres choses, par le simple fait que la famille a la priorité. Bon, c'est la famille qui commence. Bon. Et c'est-à-dire que c'est elle qui fournit les dispositions, les lunettes, hein, à travers lesquelles vont être perçues toutes les influences ultérieures. Autrement dit, cette espèce d'irréversibilité de l'itinéraire biographique qui fait qu'on commence, comme disait Descartes, à être enfant avant d'être homme, bon, fait que ce qu'on a acquis au début, et ce à travers quoi on va acquérir tout ce qu'on acquérera par la suite. Hein, on percevra les copains, on les choisira inconsciemment en fonction de l'origine sociale. On parlera politique avec des gens sans l'avoir choisi. Bon, on se mariera avec... Voilà un exemple. C'est l'homogamie, ce qu'on appelle un mot affreux de sociologue. Enfin, le fait que quand on fait des statistiques, on s'aperçoit que les deux conjoints ont à peu près la même origine. Et c'est statistiquement, bien sûr. Bon, en fait, il va de soi que si on demande aux conjoints s'ils se sont mariés consciemment sur la base de la recherche de l'homogénéité sociale maximum, ils seront révoltés. Bon, ils diront tout ce qu'on dit en pareil cas. Coup de foudre, amour, passion, etc. Bon. En fait, comment cela se passe-t-il ? C'est là que le goût interviendrait. Bon, ils ont choisi en toute liberté leur conjoint nécessaire. Bon, celui qui était assorti, comme on dit, de deux tissus qui sont assortis, celui qui allait bien avec. Bon. Et celui qui allait bien avec, ils l'ont choisi en fonction de quoi ? En fonction d'un goût qu'ils ont acquis très tôt, à travers, je sais pas, en jouant au Lego sous le piano de maman, etc. Ah bon, voilà. Les influences primaires, celles qu'exerce la famille, sont le principe de l'effet de toutes les autres influences.
Bon, je pense qu'avant d'aborder le second thème que vous avez choisi, à savoir le goût, il est une question aussi que nous n'avons pas traitée hier et qui vous tient très à cœur, c'est celui du grand espoir né dans les classes populaires par la démocratisation de l'enseignement et qu'aujourd'hui arrive à un point assez tragique. Vous aviez voulu vous exprimer sur ce point-là.
Oui, grand espoir, bon, c'est peut-être un peu excessif. Disons qu'il y avait une attente considérable. L'accès relativement plus facile, plus ouvert, enfin, l'enseignement secondaire a été perçu, ressenti comme une conquête, enfin, quelque chose d'important. Bon. Dans la pratique, il a fallu un certain temps. Il a fallu, on ne pouvait pas avoir une expérience de classe, d'un système scolaire qu'on ne connaissait pas. Et c'est là une des raisons pour lesquelles, comme je disais plusieurs fois hier, aujourd'hui, ça, il n'y avait pas de conscience de classe du système scolaire. Une génération scolaire après, c'est-à-dire 10 ans après, le temps qu'il a fallu pour que une cohorte d'enfants, comme disent les démographes, on traverse le système scolaire, on découvre les filières, les impasses, les cul-de-sac, etc., découvre la dévaluation du diplôme, du fait de ces effets de translation que je décrivais tout à l'heure. Enfin, le même titre ne produit pas aujourd'hui les profits qu'il produisait il y a 20 ans, etc. Bon, tout cela a fait que les enfants des classes populaires et leurs parents ont découvert que d'une certaine façon, ils n'avaient pas ce qu'ils attendaient, en tout cas pas complètement. Bon. Exemple, nous avons saisi dans des interviews le désarroi, enfin je crois que le mot n'est pas trop fort, à la fois d'enfants issus des classes populaires et de parents, devant l'expérience du chômage dont on peut dire, c'est bien vite dit, qu'il est électif, enfin que les enfants qui ont un bac technique ne veulent pas d'emploi correspondant. Bon, ceux qui prêchent ce genre de discours, enfin, vont s'empresser de placer leurs enfants aux écoles supérieures de photographie pour leur éviter à tout prix le travail manuel qu'ils trouvent excellent pour les autres. Les enfants donc ont reçu du système scolaire suffisamment de choses, enfin pour être, comme nous disons encore une fois d'un mot affreux, déculturés, pour être déracinés, enfin pour être pour que leur système d'attente, d'espérance, soit bouleversé, ouais. Pour qu'ils ne se contentent plus, voilà. Le mot est très joli, pour qu'ils ne se contentent plus de ce dont se contentait leur père. Bon. Et en même temps, ils n'ont pas reçu les réalités correspondant à ces espérances. Voilà. Alors ça donne des conflits de génération. Le père s'indigne, il dit bon, mais après tout, moi je suis travailleur manuel, etc. Bon, voilà. Enfin, il faudrait décrire tout ça beaucoup plus à fond. Mais il est certain qu'actuellement, il y a une... Bon, quand on parle de crise de la jeunesse, plutôt, comme toujours, enfin, on accuse les masses médias qui sont une espèce de dieu caché, comme ça, de causalité mystique. Bon. En fait, le rapport au système scolaire est capital. Enfin, je pense que le système scolaire contribue beaucoup à une crise profonde de ce qu'on appelle la jeunesse, qui ne veut rien dire. Enfin, il faudrait dire les jeunesses selon les classes.
Là. Nous avons à peu près épuisé qui ont été posés hier et qui n'avaient pas obtenu de réponse.
Je pense qu'à l'heure actuelle, les instituteurs et les institutrices apprennent à lire aux enfants avec des méthodes qui sont très élaborées, très parfaites, qui leur apprennent à lire avec une vitesse record et très bien. Néanmoins, il y a des enfants qui, sans être sous-doués, ne sont pas capables de suivre cette méthode. Or, on les fait redoubler, on les fait changer de classe quand il y a plusieurs cours préparatoires dans l'école, mais il s'agit toujours de la même méthode, qui est une méthode rapide et une méthode à laquelle ils n'ont pas accès. Mais on ne change pas la méthode. Alors au bout de 1, 2 redoublements, ils arrivent dans un IMP ou ailleurs, où il faut tout reprendre et repartir d'une façon totalement différente et les déshabituer de ce qu'ils ont appris, de les reprendre vraiment à la base, et d'une façon très lente et très difficile, alors qu'il suffirait peut-être, dans les cours préparatoires pour ces enfants-là, de changer la méthode et d'accepter de ne pas aller très vite.
Bien, madame, merci de nous avoir appelés, Pierre Bourdieu.
Oui,
c'est une question qui ne s'adresse pas forcément aux sociologues.
Pas vraiment. Cela dit, j'ai tout de même un petit mot, pas très pertinent, mais je pense que c'est une question très très importante et que tout ce que je peux dire, c'est que le système scolaire fonctionnerait mieux si ce genre de questions pouvaient être entendues. Alors j'ai dit le système scolaire, mais encore une fois j'ai employé un concept comme sujet d'une phrase. Il faudrait qu'il y ait dans le système scolaire des agents sociaux prédisposés, préparés et capables, c'est peut-être le plus difficile, à entendre ce genre de questions. Or, le système scolaire est un système sourd, qui a une inertie fantastique. Enfin, je pense que c'est une loi tendancielle, une loi statistique. Enfin, les systèmes scolaires ont une inertie fantastique, une raison parmi d'autres, étant que les maîtres sont les produits du système dans lequel ils fonctionnent, et en sorte qu'ils reproduisent inconsciemment l'inconscient du système scolaire par lequel ils ont été fabriqués. Alors, sur le cas des méthodes, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas une attention différentielle, enfin, le fait que les enfants soient soumis tous au même tempo, au même rythme, enfin, bon, est tout à fait arbitraire. Simplement, on y est habitué. Bon, c'est une invention, comme l'a montré Philippe Ariès dans ses travaux sur l'histoire de l'éducation. Ça n'est pas du tout dans la nature des choses. Enfin, il y a eu des époques pas si lointaines, enfin, où chaque enfant avait son tempo. On pouvait trouver côte à côte, apprenant à lire, un enfant de 18 ans, un jeune homme de 18 ans et un enfant de 8 ans. Aujourd'hui, ça paraît impensable. Il faut que tous les enfants aient à peu près le même âge, etc. Bon, voilà. Alors, voilà des choses qui seraient à mettre en question. Mais pour les mettre en question, il faudrait poser des questions, il faudrait qu'elles soient entendues.
Oui, et là, l'intervention reviendrait peut-être plus aux psychologues qu'aux sociologues, en l'occurrence.
Oui, c'est à la fois. À la fois. Je pense que c'est pas du tout pour accaparer le problème, mais je pense que les sociologues auraient leur mot à dire pour essayer de comprendre pourquoi ces questions ne sont pas entendues.
Bien, comme je le disais tout à l'heure, Pierre Bourdieu, je ne sais pas si nous aurons le temps de traiter du goût, parce que d'autres questions sont arrivées concernant encore une fois l'enseignement. C'est une question de Monsieur Robert Parvois, qui habite Paris. Et la ligne est tellement mauvaise, je m'excuse auprès de notre auditeur, mais nous avons pris en note sa question et je vous la pose. Les étudiants forment-ils un groupe social homogène, indépendant et intégré? Je pense qu'il y a une réponse rapide
oui,
à cette question.
En deux mots, en fait, c'est une des analyses centrales du premier livre que nous avons fait, Les héritiers. Nous avons essayé de montrer, par des analyses statistiques, de pratiques en matière de culture, d'attitudes à l'égard du système scolaire, etc., d'attitudes politiques, que ce milieu apparemment homogène, qui en tout cas se voulait à une certaine époque très homogène, aux environs de 65-66, c'était une théorie spontanée des étudiants qu'ils constituaient une quasi-classe, etc. Bon, en dépit de leur prétention d'homogénéité, les étudiants sont une population très très diversifiée. Surtout si l'on englobe dans les étudiants, ce qui est capital, on les oublie toujours, les élèves des grandes écoles, qui sont hiérarchisés, etc.
Une auditrice pour vous, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu vous écoute, madame.
Oui. J'ai lu, je crois, un livre qui s'appelait L'école capitaliste, je crois, auquel vous avez participé.
C'est vrai,
non.
Pierre Bourdieu? Non.
Non, non.
Non, ça ne fait rien, posez votre question.
Je suis enseignante, j'ai 25 ans de métier derrière moi. Hein? Je refais l'enseignement depuis que j'ai commencé à exercer. Et Dieu sait si je suis consciente de tous ces manques. Je viens d'un milieu défavorisé. Mes parents sont d'origine bretonne. J'ai eu le problème dont on parle aujourd'hui de ne pas avoir vraiment une langue maternelle, bien sûr. Des parents qui ne parlaient ni très bien le breton, ni qui n'écrivaient pas, qui ne lisaient pas, qui ne parlaient pas très bien le français. Enfin, j'ai eu pas mal d'handicaps. Je suis arrivée par le biais d'enseignement primaire supérieur auquel vous avez fait allusion. Alors, je suis aussi consciente de ce problème. J'ai été victime de la bonne organisation capitaliste. Je ne pouvais être qu'un cadre moyen. Ce que je suis pas d'abord été institutrice. Ensuite, comme j'étais une bonne institutrice, je suis devenue professeure. Mais je n'ai pas réussi à l'université. Je pense que je peux l'attribuer en part à mon origine sociale. Bon, enfin, j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Grâce à l'école, avec toutes ces failles, c'est la seule chose qui m'a permis de réussir. Et ce qui m'accable aujourd'hui, c'est qu'on enlève aux enfants du peuple la possibilité, parce qu'on a tellement démoli l'école, on finit par leur enlever les seules chances qu'ils ont de s'en sortir dans la vie, c'est-à-dire de bien lire, de bien écrire, de savoir s'exprimer, de maîtriser leur langue maternelle, et d'être ensuite capable de faire quelque chose, enfin d'améliorer leurs conditions. Et alors maintenant, pour que tout le monde ait les mêmes chances, qu'est-ce que vous proposez? Il faut retirer les enfants des classes privilégiées à leurs parents, stopper les doués, enfin les enfants qui, dans leur milieu familial, au cours des 3 années où l'école n'intervient pas, ont acquis déjà une telle avance sur les autres, enfin sur un tas d'autres enfants. C'est ça les vrais problèmes, qu'on n'aborde pas vraiment, jamais.
Pierre Bourdieu.
Oui, il est très difficile de répondre à cette question, enfin, qui est très sérieuse, son ton le montre, et très respectable, que l'analyse sociologique, en l'occurrence, je précise que celle qui a été mentionnée mais n'est pas la mienne, comme je le pense, c'est une forme simplifiée et simpliste qui peut expliquer qu'elle est parue choquante et parfois scandaleuse. Si on analyse le fonctionnement du système scolaire, ce n'est pas pour culpabiliser les enseignants, ce n'est pas pour démoraliser les enfants des classes populaires en leur disant qu'ils n'ont aucune chance. On analyse le fonctionnement du système scolaire d'abord pour comprendre comment ça se passe et pour fournir des principes d'intervention efficaces à ceux qui voudraient le faire fonctionner autrement. Autrement dit, définir des objectifs, répondre à la question « mais que faut-il faire ?» Enfin, question qu'on me pose toujours. Ce n'est pas nécessairement le rôle du sociologue. Le sociologue peut définir, quoi qu'il ait ses opinions à titre personnel, qu'il puisse les avoir, le rôle du sociologue est de définir les probabilités de réussite de différents types d'actions. Bon, et aussi de décrire, et ceci est tout extrêmement important, de décrire les représentations que les différents groupes qui se servent du système scolaire ou qui sont utilisés par le système scolaire ont du système scolaire. En fait, le système d'enseignement, comme toute institution sociale, est un enjeu de lutte. Le système d'enseignement n'est pas du tout, n'est pas seulement quelque chose où on envoie ses enfants, d'où on les retire, d'où ils retirent des titres scolaires, etc. Le système d'enseignement est un enjeu de lutte et, pour le moment, la lutte pour le système d'enseignement est cantonnée en gros, à la classe dominante. Bon, je me fonde sur des faits. Nous avons fait, après 1968, grâce à une association qui s'appelle l'Association pour l'expansion de la recherche scientifique, nous avons fait une enquête sur le système d'enseignement, une enquête correspondant tout à fait aux questions qui viennent d'être posées. Que voulez-vous en matière d'enseignement? Voulez-vous que le latin soit supprimé? Voulez-vous que l'agrégation soit supprimée? Voulez-vous qu'il y ait une filière unique? Voulez-vous qu'il y ait plus de mathématiques? Enfin, bon, des questions normatives. Bon. Et une des grandes leçons de cette enquête, c'est que seuls répondaient ceux qui étaient déjà en mesure d'utiliser le système scolaire. Autrement dit, il y a, comme dans un régime censitaire, enfin bon, sans qu'on ait explicitement imposé un sens pour avoir le droit de parler du système d'enseignement, il y a des gens qui parlent du système d'enseignement. C'est pas un hasard, je suis prêt à parier ma main, qu'aucune des questions qui ont été posées ici n'a été posée par des gens qui se situeraient au-dessous du niveau de cadre moyen. Bon. Et la probabilité de poser des questions sur le système d'enseignement est exactement proportionnelle à la probabilité d'envoyer ses enfants dans le système d'enseignement, à un niveau élevé du système d'enseignement. Autrement dit, les gens sont d'autant plus intéressés au système d'enseignement et d'autant plus enclins à le modifier, à le transformer en vue de leurs intérêts, c'est ça être intéressé, bon, ils ont déjà plus investi dans ce système. Bon. Donc, le système d'enseignement est un enjeu de lutte. Et là encore, le sociologue peut décrire cette lutte, décrire les obstacles à la prise de conscience d'intérêts, décrire pourquoi, essayer de comprendre pourquoi les classes populaires n'ont pas conscience de leurs intérêts, et du même coup ne les défendent pas bien en matière scolaire, ce qui est une contribution, etc. Bon, voilà. Mais c'est une question très très sérieuse à laquelle il faudrait répondre pendant des heures.
Un auditeur pour vous, Pierre Bourdieu. Bonjour monsieur et merci de nous appeler. Je rappelle très vite les deux numéros de téléphone, 520-0550, 525-7806. Bonjour monsieur.
Allô?
Oui.
Oui, bonjour là. Oui, j'aimerais demander à monsieur Bourdieu, j'ai lu son livre qui s'appelle Les Héritiers, je trouve que c'est une analyse excellente, mais enfin ce que je peux lui reprocher, et j'espère qu'il peut s'en expliquer, c'est pourquoi lui-même, en écrivant ce livre, emploie le langage de classe, enfin, qui dénonce comme barrage pour les enfants, enfin, dit de milieux favorisés, etc. Il dit que ce langage est un obstacle. Et lui-même, pour populariser enfin, des textes qui sont extrêmement intéressants, je pense qu'il devrait utiliser un langage beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Moi, j'ai dû me servir du dictionnaire plusieurs fois et je suis enseignant. Et donc, je trouve que c'est dommage enfin, que son texte soit aussi hermétique.
Oui, Je dois vous rappeler, monsieur, peut-être n'étiez-vous pas à l'écoute hier, que Pierre Bourdieu s'est longuement exprimé sur le problème de la terminologie, du langage adopté en matière de sociologie. Il a même ajouté, je le rappelais au début de cette émission, qu'il y a des explications que l'on peut donner que sous une forme difficile. Les mots sont ce qu'ils sont, la sociologie sont ce qu'ils sont. La sociologie est une science neuve, et il est évident qu'il y a encore tout un aspect de cette terminologie qui n'a pas été décanté. Qu'en pensez-vous, Pierre?
Bon, il faudrait encore revenir sur cette question qui est aussi une question importante, mais je voudrais ajouter simplement un argument à ce que j'avais dit hier. En gros, j'avais indiqué hier que l'usage d'un langage difficile est parfois, et toujours, enfin au moins en intention chez moi, une manière de respecter le lecteur, alors qu'une certaine forme de, une certaine manière d'être facile, enfin bon, est très souvent une manière de mépriser le lecteur. Et je pense que la question précédente et la référence à certaines analyses que j'ai appelées simplistes, enfin prouvent à quel point il est dangereux de simplifier les choses complexes, parce qu'ensuite on se bat sur des faux problèmes, c'est-à-dire que la question précédente qui est importante, enfin, aurait pu être posée de manière plus complexe, de telle sorte que le discours produit en réponse aurait pu être plus vrai, si peut-être...
Moi ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé votre livre passionnant, mais je l'ai prêté à des collègues qui sont arrêtés, enfin, simplement parce qu'ils ont été rebutés par la langue.
Oui, je conçois. Le problème est réel. Le problème est réel, mais il y a aussi des médiateurs. Enfin, il est important que la vérité, que ce que l'on espère être la vérité soit dit quelque part, comme il doit être dit, c'est-à-dire avec toute la complexité nécessaire. Bon, voilà. Pour le reste, on peut compter précisément sur des médiateurs qui sont là pour expliquer. Il y a aussi des professionnels, enfin, de la prise de parole. Enfin, le Capital est un livre très difficile. On le commande depuis des générations.
Mais vous savez, je crois que c'est le même problème qui se pose pour nous. À la radio, dans cette forme d'expression qui est la nôtre actuellement, où on nous reproche parfois de faire place à des questions très complexes, très savantes, et d'autres fois à des questions qui touchent à des problèmes de base, à des données relativement élémentaires. Mais c'est que, et c'est une grande banalité, celle que je vais dire, mais peut-être est-il bon de la rappeler, que nous nous adressons à des publics très différents, des publics très spécialisés qui ont besoin d'une réponse spécialisée, et aussi à des publics qui ont besoin d'avoir des connaissances précises pour peut-être un jour aborder justement à une connaissance, à une appréhension d'une terminologie plus savante. Je crois que ça, c'est un problème auquel nous ne pouvons pas échapper encore aujourd'hui. Pierre Bourdieu, moi je voudrais maintenant qu'il nous reste une dizaine de minutes, un petit peu plus de 10 minutes, encore qu'il va nous falloir prendre un nouveau rendez-vous pour parler du goût, si nous voulons vraiment en parler longuement. Mais comme en fait, ce sont toujours les mêmes problèmes qui vont revenir, les mêmes méthodes, la même démarche qui illustre bien cette définition de la sociologie que vous nous donnez depuis hier, et surtout du rôle et du métier de sociologue, je voudrais parler de cette enquête très importante que vous avez faite en deux étapes. Une première étape se situe en 1963, où vous aviez interrogé, je crois, 690, près donc de 700 personnes, en situant géographiquement vos interrogatoires, si je puis dire, ce mot n'est pas très joli, à Paris, à Lille et dans une petite ville de province. Une enquête que vous avez complétée en 67-68, en augmentant le nombre des témoignages. Et vous êtes arrivé, à partir de ce grand brassage de faits, d'observations et de paroles recueillies, à donner pratiquement une sorte de géographie des classes sociales à travers les gens qui exprimaient leurs goûts, leurs habitudes, leurs ambitions. Alors, tout ceci est un petit peu confus dans mon esprit. Je voudrais que vous éclairiez un petit peu comment, construit-on une enquête pour essayer d'aboutir à une sorte d'anatomie du goût. Cette anatomie du goût, d'ailleurs, que vous avez, vous en avez fait le titre d'un des numéros de la revue Actes de la Recherche. Et quels sont les domaines explorés qui pourraient vous servir de terrain d'étude prioritaire?
Oui, alors le questionnaire que nous avons employé donne une idée assez juste, enfin, de ce que nous cherchions. Nous avons cherché à interroger sur un ensemble de pratiques apparemment disparates, par exemple les préférences en matière de vêtements, en matière de cuisine, en matière de choix des amis, en matière de choix de musique classique,
de
chansons, de pratiques culturelles, de chansons, etc., etc. Bon. Avec l'idée que ces choses que normalement on étudie par des enquêtes différentes, il y a des enquêtes très régulières sur les chanteurs préférés, il y a des enquêtes régulières sur les films préférés, etc. Avec l'idée que par le fait de saisir dans la même enquête ne serait-ce que très partiellement les choix effectués dans ces domaines très différents, cela nous permettrait de découvrir l'unité des goûts. Bon, alors, dans la pratique, nous avons l'intuition de cette unité. Bon, les gens se choisissent en fonction de leurs goûts et les gens repèrent les autres, en particulier leur classe sociale, qui n'est pas souvent perçue comme telle, à travers des choix, en particulier les choix vestimentaires, les choix cosmétiques, la manière de se coiffer, la manière de s'habiller, etc. Et surtout des choix de l'intérieur, le choix, des meubles. Bon, par exemple, on se trahit très profondément à travers son mobilier. On donne une information très importante sur soi-même à travers son mobilier. Bon, nous savons donc tout cela de façon intuitive et confuse, mais nous ne le savons pas complètement, en ce sens que il y a toute une idéologie spontanée, une théorie spontanée. Je disais hier que nous sommes tous sociologues, que nous le sachions ou non. Il y a une théorie spontanée, à savoir que le goût est naturel, le goût est inné, par conséquent, il n'y a pas à chercher d'autres explications. C'est la nature, c'est l'arbitraire. Bon. Et contre cette...
aussi discernement.
Oui, il est discernement, mais l'idée, bon, disons les choses autrement, le goût est un système de classement, c'est une manière de hiérarchiser et de différencier des choses qui pour d'autres pourraient être confondues. Bon, par exemple, dans un travail que nous avons fait sur la fréquentation des musées, c'est une énorme enquête avec énormément de questionnaires, etc. Bon, nous avions fait des interviews sur ce que les gens avaient vu dans un musée. Bon, par exemple, selon leur classe sociale, c'est-à-dire selon leurs compétences culturelles, selon ce qu'ils avaient acquis à l'école ou dans leur famille, ils avaient vu plus ou moins de choses. C'est-à-dire, ayant des catégories de perception, des lunettes, des principes de différenciation plus ou moins fins, ils avaient vu plus ou moins de choses dans le musée. Mais aussi dans un seul tableau. Autrement dit, le goût, c'est ce qui permet de faire des différences. Bon, ça vaut aussi bien en cuisine qu'en musique. Enfin, c'est ce qui permet de distinguer le salé et le fade, par exemple. Et c'est ce qui permet de distinguer un Vivaldi d'un Bach, enfin, bon, ou même un Schoenberg, première manière, etc. Bon, c'est ce qui permet de faire des différences. Et le sommet du raffinement consiste à faire le plus possible de différences là où les autres ne voit que de l'homogène, du fade, de l'insipide.
Un auditeur pour vous, Pierre Bourdieu, au 520-0550. Bonjour monsieur et merci de nous appeler.
Bonjour, je voudrais poser une question en rapport avec ce problème du goût et aussi bien sur la stratification dans le système scolaire. Dans quelle limite peut-on parler de liberté individuelle? Est-ce qu'elle existe ou pas?
Vaste question.
Oui, c'est aussi une question très très sérieuse, mais je pense pas que je puisse y répondre. J'ai dit, je crois, autant par mon discours que par mon attitude, enfin, que le sociologue n'était pas métaphysicien. Enfin bon, simplement ce que je peux dire, c'est que tout ce que nous essayons de faire tend à nous faire voir que l'expérience subjective, l'idéologie, disons, nous porte à voir la subjectivité libre, nous découvrons des déterminismes. Et à mesure que la connaissance avance, enfin, plus nous en savons sur le monde social, plus nous en savons sur les mécanismes sociaux, plus nous trouvons le déterminisme. Bon. Alors, est-ce que les déterminations sociales... je ne devrais pas dire déterminisme. Plus nous trouvons des déterminations sociales, et plus l'asile de la liberté recule. Voilà. C'est un peu le travail du sociologue de découvrir la nécessité là où on vit la liberté. Bon. Ce qui ne consiste pas du tout à nier la liberté, mais ça serait un autre débat.
Bien, nous prendrons date pour ce débat-là, si vous voulez bien. La dernière question, puisqu'il nous reste que quelques minutes, c'est moi qui vous la pose, Pierre Bourdieu. Elle m'a été, je dois dire honnêtement, un peu suggérée par vous, mais je crois qu'elle est assez bien en situation, en fonction des questions qui ont été posées aujourd'hui. Est-ce que vous, sociologue, n'êtes pas en train d'inventer une nouvelle classe d'intellectuels?
Oui, peut-être pas une classe, mais disons peut-être une nouvelle manière d'être oui. Intellectuel. Je pense que beaucoup des malentendus... que l'on observe dans la réception du discours sociologique tiennent au fait que les ceux qui peuvent s'intéresser au discours du sociologue le lisent avec des attentes que le sociologue ne peut pas ou ne veut pas satisfaire. Autrement dit, il y a des sociologues, j'ai dit hier qu'il y avait plusieurs manières de sociologues, il y a des sociologues qui répondent, n'hésitent pas à répondre à des demandes de type total et qui n'hésitent pas à se constituer en prophète, pour dire les choses par leur nom, le prophète étant celui qui précisément répond à des questions ultimes de vie ou de mort, sur le sens de l'existence, etc. Bon. Il y a des sociologues qui entrent dans ce jeu. Je pense que pour ma part, il me paraît important, par respect pour le public et par respect des limites de l'entendement sociologique, enfin, il me paraît important de ne pas répondre à ces questions ultimes et de savoir que le sociologue est quelqu'un qui monnaie en questions scientifiques les questions totales auxquelles les maîtres à penser, les philosophes, répondaient de manière totale, c'est-à-dire totalitaire. Bon. En fait, le sociologue est, je pense, quelqu'un qui déconsidère, qui voudrait déconsidérer, hélas, il ne le peut pas, qui voudrait déconsidérer la prétention totalitaire des philosophes nouveaux ou anciens. Bon, c'est quelqu'un qui voudrait montrer que à ces problèmes ultimes, enfin sur le sens de l'histoire, etc. Bon, il faut substituer des petites questions qui sont la monnaie de l'absolu, enfin des petites questions sur lesquelles on peut répondre systématiquement, mais par un travail collectif, long, cumulatif. J'ai dit collectif, c'est très important. Là, j'ai souvent parlé à la première personne. Il m'est arrivé de dire aussi nous, parce que ce travail, non pas parce que j'emploie un nous emphatique, enfin parce que ce travail est évidemment collectif. Collectif et qu'il engage tout un groupe, mais un groupe qui se donne pour tâche de répondre à des questions globales, systématiques, avec des exigences qui ne peuvent être mises en œuvre que sur des questions partielles et précises. Bon, je ne sais pas si j'ai été clair.
Si, moi je crois que peut-être pour donner un autre résumé de la situation des sociologues, on peut peut-être reprendre ce que nous disions au début de cette émission, que le sociologue reste un homme à part entière dans la cité, un homme qui interroge, mais qui s'interroge aussi beaucoup et qui doit remettre en cause, vous l'avez prouvé d'ailleurs au cours de ces deux journées, où votre prudence, pour ne pas répéter encore le mot honnêteté vis-à-vis des mots, des termes et des concepts, a été présent à tous les moments de cet entretien. Pierre Bourdieu, merci. Je crois que nous avons de nombreux rendez-vous à prendre. Et un premier, peut-être tout de suite, c'est que toutes les questions auxquelles vous n'aurez pas pu répondre aujourd'hui, si vous nous promettez d'avoir l'amabilité d'y répondre par écrit, nous vous les transmettrons intégralement. À très bientôt. Merci beaucoup.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 27 septembre 1977. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique des nuits.
Talk to me, talk to me, talk to me. Your magical kiss can take me just so far. Talk to me, talk to me, talk to me. Don't leave me like this, dangling from a star. You set me all aflame, and it's so pleasing. It sure would be a shame if you were only teasing. So my love, before I go, turn the light way down low and talk to me, talk to me, talk to me. Your magical kiss can take me just so far. Don't leave me like this, dangling from a star. You set me all aflame, and it's so pleasing. It sure would be a shame if you were only teasing. So, my love, before I go, turn the light way down low and talk to me.